Donc c'est impressionnant, c'est une grande salle, c'est un grand écran et une petite table. Donc c'est bien. Oui, alors, vous avez donc vu Le secret derrière la porte, Secret Beyond the Door. Vous allez voir Rebecca de Hitchcock et vous allez voir elle. J'en parlerai, je ferai un peu comme si vous les aviez vus, puisque je serais obligé de m'y référer. J'ai trouvé un titre, j'aime bien trouver des titres, parce que ça donne une direction. J'ai appelé ça « Maison témoin ». J'aurais pu appeler ça aussi « Chambre allouée ». Parce que vous verrez que le point commun entre les trois films, il y a une visite à la chambre, dont celle de, dont je vous montrerai l'extrait de « Secret » quand Célia, à 3h30 du matin, attend que tout le monde dorme pour aller visiter la fameuse chambre 7. Mais il y a aussi ça dans « Rebecca », il y a aussi ça dans le film de « Elle ». J'en parlerai plus tard. Alors, Maison, donc c'est ces trois films-là. C'est une bonne idée de les rapprocher, parce que non seulement ils ont des points communs, ces trois films, mais surtout ces trois cinéastes ont beaucoup de points communs, parce qu'ils ont des univers proches et ils ont dialogué profondément sans que ça soit nécessairement du travail de copie ou d'imitation. Ils étaient travaillés, si je puis dire, par les mêmes problématiques. Buñuel et Lang sur l'idée de meurtre et de mise en scène. Parce que chez Lang, il y a deux formes de passage à l'acte criminel. Il y a celui de M, Peter Lorre, « Ich kann nicht », c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que c'est une pulsion irréfragable qu'on ne peut pas dominer et qui vous pousse à commettre le pire. Et puis il y a le meurtre pensé, prémédité, qui exige un plan, un décor, un secret, une mise en scène. Et il y a beaucoup de cas dans les films de Lang de personnages metteurs en scène, au sens metteur en scène du monde, les figures de Mabuse, j'en passe, et autres. Puis l'autre, qui est peut-être le plus accompli, c'est son dernier film américain, L'invraisemblable vérité, Beyond the Reasonable Doubt, sur la mise en scène et le crime. D'ailleurs, il y a un moment dans La visite des chambres où il parle de du crime comme le Beaux-Arts, l'amour et la perfection et le crime comme relevant des Beaux-Arts. Il me semble dans la chambre, je ne sais plus lesquelles. Enfin bon, passons. Donc Maison témoin, pourquoi Maison témoin? Je le développerai ensuite, mais juste pour commencer, parce que c'est des films maison, au sens que la maison a un rôle important. Dans Secret, vous l'avez vu, on la voit toujours arriver et lourde d'un passé, mort, enfin, ce qui s'est passé avant. Donc l'idée, qui est une idée très commune et très générale, c'est l'idée de la maison comme témoin où un drame s'est déroulé et les murs gardent la mémoire de ce qui s'est passé. L'idée de contenant. Et c'est une idée assez longienne, parce que je pense que c'est intéressant de rapprocher Secret avec un autre film de langue période allemande, c'est le diabolique docteur Mabuse avec l'hôtel Luxor. Dans l'hôtel Luxor, le Mabuse, qui est toujours dédoublé, il y a un rôle et puis un autre, comme dans Les Espions de Fritz Lang avec Agui. C'est des caméras qui surveillent. Ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, dans Secret, il y a cette idée très cinématographique à l'ancienne, c'est-à-dire on filme, ça enregistre sur la pellicule, et la pellicule garde la mémoire, comme la photographie, de ce qui a été observé. Il y a une idée presque pelliculaire et cinématographique de la maison chez Lang, qui est l'idée justement que ça s'imprime, les murs gardent, comme une photographie capture l'empreinte, si vous voulez. Et l'empreinte, il y en a dans le film, qui est une prise d'empreinte avec la clé, qui fait le double, justement, duplication. Bon, on en reparlera. Donc ça, c'est cette idée-là qu'il y a globalement dans Secret, avec une touche supplémentaire, on va en parler aussi, qui est l'idée du décor. Généralement, il y a une conception passive du décor, c'est-à-dire il y a le décor, c'est l'arrière-plan, et puis il y a les acteurs et les personnages, éventuellement les accessoires, dans une sorte de rhétorique classique du théâtre. Ici, c'est le contraire. Le décor est actif. On en parlera parce que c'est la notion de Felicitous House, qui est traduite dans les sous-titres français, je crois, je ne sais pas quelle version vous avez vue, par Fortuné. Et elle, Célia, parle de Happy Room. Happy Felicitous, ça n'a pas la même signification, j'en parlerai également. Bien. Et l'autre idée, donc, c'est l'idée d'un décor actif, parce que quand on enclenche un décor, il y a un programme de meurtre à la clé. Donc tout d'un coup, ça c'est le film. L'indice de « It's my room », de « Candle, it's my room, it's waiting for me », c'est la bougie, c'est ma chambre, elle m'attend. C'est le déclic que tout d'un coup, lorsqu'on programme un décor, on programme un meurtre. Donc, la mise en scène et le crime. Ça, c'est la grande idée. Revenons sur ce que je voulais dire. L'idée, là, on est dans une idée presque ancienne de la pellicule qui est une empreinte et qui garde ce qui a eu lieu, comme les murs et la maison. Et dans le diabolique, ce qui est intéressant, c'est que là, tout d'un coup, les murs ne sont pas de la pellicule, c'est des caméras. Donc, dans la télévision, dans le direct, il observe avec des caméras de surveillance ce qui se passe dans toutes les chambres. Donc, on n'est plus dans le temps du cinéma. On filme, on enregistre, la pellicule garde la mémoire de ce qui a eu lieu, comme les murs et la maison à l'ancienne. Là, on est dans du direct avec la caméra qui observe en présent. Mais la question du temps est essentielle chez Lang, et vous l'avez vu encore plus dans Secouer Beyond the Door, avec l'horloge, la bougie et les marques du temps. Eh bien, maison témoin, donc, pour ça. Chambre à louer, j'en parlais, parce qu'il y aura des visites à la chambre. Je voudrais dire une petite chose pour passer vite là-dessus. C'est un film qui fait partie de ce qu'on appelle la période psychanalytique à Hollywood. Peut-être que Mathieu vous en a parlé hier. Ce qui est intéressant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le film. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est associé, il y a beaucoup de films, hein. Il faut bien distinguer les films qui sont sujets à interprétation psychanalytique et les films qui mettent en scène des personnages de psychanalystes. C'est le cas dans Cat People, de Turner, enfin, etc., son docteur Edwards. D'ailleurs, Secret est influencé par un croisement de deux films de Hitchcock, Rebecca, pour la partie maison passée, la morte, la femme morte et la celle qui arrive après en copie ou en double. Hein. Mais là-dessus, Rebecca et Secret sont très, très différent de cette question-là. Vous verrez en voyant Rebecca comment la jeune femme, Jane Fontaine, arrive et obsédée à l'idée de ressembler à la morte, croyant que son mari l'aimait, enfin, plus tard. Voilà, donc ça, cet aspect-là. Et la psychanalyse, oui, elle existe dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, Lang articule la psychanalyse avec le décor. C'est ce qui m'intéresse. Hein. Je dirais que lors de la visite des chambres, vous vous souvenez, il y a une visite musée. C'est un Henri Langlois, Marc Lanfer, hein, c'est-à-dire que c'est un collectionneur. Et il fait une visite. Et dans la visite guidée, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une jeune femme qui fait une interprétation psychanalytique. La haine inconsciente de la mère peut provoquer l'envie de tuer son épouse. Donc elle, on peut dire qu'elle donne la clé, au sens clé symbolique psychanalytique. Hein, alors que celle-là, elle aura la clé matérielle pour comprendre de quoi il fait ça. Ce qui est intéressant dans la psychanalyse ici, c'est qu'elle est liée à la porte, donc à l'espace. Donc on peut appeler ça des films de psychanalyse maison, au sens où la maison est un peu la métaphore du cerveau, et la cave, ce qui est refoulé, enfoui, le grenier, ce qui est oublié, etc., etc. Donc les films maison, les films cerveau, sont nombreux, il y en a un paquet. Le plus récent et le plus abouti, c'est Shining de Kubrick. Maison, cerveau. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Célia le dit à un moment donné, quand il parle de la chambre 7, toi-même, tu ne sauras jamais. Et il dit, je ne sais pas ce qui est enfermé dans ta tête, parce qu'ils épousent tous des strangers, des inconnus, qu'ils découvrent à l'usage par rapport à leur passé ou antécédent. Et elle dit, quand j'arriverai à pénétrer ta tête, c'est comme la chambre 7 qui est fermée. Et en ouvrant la fameuse, en visitant cette chambre, je comprendrai ce que tu as dans ta tête. Donc il y a toute cette idée-là, ce scénario psychanalytique du film, l'idée de ce qui est refoulé, scène traumatique, inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça relève avec le trauma de la porte fermée. Donc au moins, il fait coup de double, si je puis dire, langue par rapport au scénario, dans la mesure où enfant, enfermé, à clé, je crois que c'est sa mère, c'est sa sœur Caroline, etc., etc. Donc le motif de la porte et de l'enfermement est le début du trauma. Et en même temps, l'idée du refoulement, psychanalyse et tout, c'est souvent lié à ce qui est fort clos. C'est comme si c'était enfermé dans une porte à clé, puis on ne sait pas ce qu'il y a, et ça remonte pas. Le système des clapets, si je peux dire. Hein. Donc ça, c'est intéressant que la psychanalyse, dans le film de Lang, est articulée à l'idée de maison et de porte, et de franchissement et de seuil, de ce qui s'ouvre et qui se ferme. La scène où elle se brosse les cheveux, porte fermée, lui qui dénie être venu, alors que c'est lui qui a voulu rentrer, mais qui n'a pas pu, et pour ne pas la tuer, il s'en va, enfin, etc. La scène des Lilas à la gare, qui est là, le remake de ça, par rapport à ça, etc. Donc vous verrez dans les trois films le rapport aux portes, dans Rebecca, dans Elle, sont très très intéressants. Bien, donc ça c'est un peu sur la psychanalyse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est filée en termes architectural par rapport à l'idée, justement, de ce qui est refoulé, caché, et qu'il faut libérer par la parole. À la fin, Sylvia fait un boulot d'analyste. Quand elle part avec l'incendie, la fuite, elle revient pour savoir et obliger Marc à parler et à raconter son souvenir traumatique d'enfance, sa mère qui l'enferme, ce qu'il croit, alors qu'elle veut partir, etc. etc. Donc elle ouvre la porte de son souvenir traumatique. Et le film se termine d'ailleurs par une guérison relative, parce que je crois que, si j'ai bonne mémoire, j'ai de retrouver ça. C'est-à-dire, tu as tué la racine du mal en toi, et réponse, il me reste encore un long chemin. Donc c'est un optimisme mesuré. Donc ça, ce que j'aime bien dans le film, c'est l'articulation de la psychanalyse avec l'architecture et l'idée de maison, comme une maison cerveau. Elle le dit, Célia, à plusieurs reprises, quand j'aurai pénétré ce qu'il y a dans ta tête, ce sera comme lorsque j'ouvrirai la porte de la chambre, j'aurai le secret à la porte. Donc c'est un secret au sens ce qu'elle contient en termes de décor et un secret ce que lui a en tête, ses idées de meurtre liées à un traumatisme, à la haine de la mère, ce que dit très bien la personne lors du voyage, enfin de la visite, pardon. Hein. Donc ça, pour maison témoin, j'ai plein de feuilles, ça commence bien. De toute façon, je ne vais pas les relire toutes, parce qu'il y en avait pour 10 heures. Mais voilà, donc sur la maison témoin, psychanalyse. Alors, la ligne plus intéressante, donc, c'est ça. Donc, les films, avant de passer les extraits, je vais commencer par le... Donc, la notion de maison, elle est liée à beaucoup de films, c'est-à-dire les questions des fantômes. Hein. La question des maisons des fantômes... ou alors des maisons construites sur des cimetières et les morts veulent se venger, enfin, etc., est une hypothèse intéressante, parce qu'il y a cette dimension dans Rebecca, plus que dans Secret Beyond the Door, sur l'idée que les morts, même s'ils ne reviennent pas sous la forme de fantômes, les draps, de spectres, ils continuent de hanter de leur présence par leur absence, parce que tout d'un coup, la maison devient, dans le cas de Rebecca, une sorte de musée qui garde intacte la trace de celui ou de celle qui a été là et qui n'est plus là. Donc c'est important, cette absence, cette idée de présence absente est très structurante dans les films. Donc ça, il y a beaucoup de cas de maisons hantées et de fantômes qui, parce que les vivants étaient là et comme il y a des morts, ils sont partis, c'est des nouveaux locataires, ils les embêtent parce qu'ils veulent garder la mémoire des lieux, etc. Donc il y a plein de cas de maisons hantées et la maison hantée revient beaucoup dans de nombreux films de l'époque, mais je ne vais pas vous parler de ça. Alors, donc le fil conducteur, c'est plus sur la notion de décor et d'architecture dans les trois films, et sur le rôle du décor, surtout chez Lang, et aussi chez Buñuel, également chez Hitchcock, mais différemment, qui est lui plus dans la perspective muséale, même si dans Rebecca, vous verrez, il y a deux maisons de Rebecca, la chambre, gardée jalousement par Mrs. Danvers, et le cottage dans la crique, ou qui est aussi un autre lieu, donc il y a un lieu dédoublé. On verra comment, dans les films, il y a beaucoup de questions de double, de duplication, de succession. Célia, qui arrive après Léonore, lui succède, prend sa place. Et Rebecca, qui arrive aussi après, etc. Donc, les liens entre les trois films. Alors, il y en a plusieurs. Je vais commencer à les énoncer, on va les reparler avec des extraits. Première chose, c'est des... Ah oui, je voulais faire une autre chose, je vais le faire maintenant. C'est sur la... Je ne connais pas, vous avez sans doute un dossier pédagogique, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il est fait. Sur la bibliographie, je pense que vous avez tous les bons livres sur Lang qui doivent être dedans, mais je vais peut-être en préciser quelques-uns, des articles qui sont intéressants. Ben, les langues, il y a le Lang de Lotaxner, il y a le livre de Bernd Eisenschitz, Lang au travail, mais sur le sujet précis qui nous intéresse, il y a un article de Jean-Luc Bourget, qui est peut-être moins connu, qui est dans cet ouvrage, La rencontre, des comptes rendus des conférences à la Cinémathèque française. Moi, j'ai fait la rencontre dans la Tanne de Stenberg. Lui, il a choisi, comme Jean-Louis Bourget, l'article « La flèche du désir, Fritz Lang et John Bennett ». C'est toutes les scènes de rencontre de John Bennett dans les quatre films de Fritz Lang, dont celle du secret vers la porte. La scène de rencontre amoureuse. Donc, le point commun, donc ça, c'est ce premier article. Il y a un article de Jean-Claude Biette, qui est paru dans Trafic 2003, numéro 47, qui s'appelle « Les mains de Fritz Lang ». L'importance des mains. Enfin, il y en a un paquet chez Lang de mains. Puis il y a l'idée de main, et puis de ce qui va avec manipuler, posséder, prendre. Ce qui est intéressant dans Secret, c'est beaucoup de mains de femmes. Hein. C'est les mains de Célia avec la clé. C'est la main qui prend le petit paquet avec la clé. Donc, c'est la main qui met la clé, la serrure. Donc c'est important, c'est un film où il y a beaucoup de mains féminines, quand souvent les mains chez Lang sont masculines, y compris d'ailleurs dans l'inversion de la vérité, à la fin, la main qui fait tout basculer, c'est la main même de Fritz Lang, hein, qui faisait la figuration. Donc je vous invite à lire ça, les mains de Fritz Lang, voilà. J'ai commis aussi un article dans une revue, il y a longtemps, enfin je ne l'ai pas amené, mais juste amené une photocopie, dans Cinémathèque numéro 5, printemps 1994, c'est édité par Cinémathèque française et Yéona. J'ai écrit un texte, La scène en jeu, le maître et sa mise, le personnage metteur en scène chez Fritz Lang, où je parlais beaucoup de la recherche de vérité, m'abuse, mais aussi beaucoup de ce qu'est le Beyond the Door. Voilà, pour ça. Bien. Et puis sur elle, j'ai écrit un petit bouquin sur elle aussi, donc ça je connais bien. Alors, on va continuer. Je vais prendre un peu d'eau. Hein. Je regarde le temps aussi. Les points communs entre les trois films. Points communs entre les trois films, il y a trois scènes de coups de foudre, et de rencontres coups de foudre. Hein. Celle dans le secret est formidable, vous en souvenez, hein, au Mexique. Celle dans Rebecca, vous verrez, elle est étonnante. C'est pas vraiment une scène de coup de foudre, mais c'est une scène de rencontre. Et qui est sur un lieu bizarre, parce que c'est un lieu de reduplication pour le héros Maxime de Winter, joué par Laurence Olivier. Je rappelle que dans Rebecca, c'est le prénom de la morte, la femme précédente. C'est un peu l'équivalent de Eleanor dans Secret. Et John Fontaine n'a jamais de prénom, le film de Hitchcock. Cendrillon, mais elle n'a pas de prénom. C'est la jeune épouse. John Fontaine, mais elle n'a pas de prénom, c'est intéressant. Oui, donc elle est à Monte Carlo, c'est-à-dire, c'est pas évident, avec des falaises énormes, tempête, et elle voit un homme dont elle pense qu'il va se suicider et se jeter dans le vide. Elle est dessineuse et fait des croquis. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que Maxine de Winter vient sur les lieux où, avec sa précédente femme, hein, Rebecca, et c'était le lieu de son voyage de noces, où au bout de 4 jours, il a compris la vérité de ce qu'était Rebecca et tout ce qui s'est cassé entre eux, etc. Donc c'est déjà, il revient sur une scène, la scène de rencontre se fait sur un décor étrange. La scène de coup de foudre de elle, je vous la passerai, elle se passe dans une église. Donc les rimes, elles sont très nombreuses, mais c'est intéressant de voir le coup de foudre. Les pistes, je vais les lancer assez vite, parce qu'il y a l'importance donc de la scène de rencontre, parce que toutes les femmes rencontrent des inconnus. Ça, c'est le point commun des trois films. C'est-à-dire, elle le dit, Célia, « A stranger I'm drawing, je ne connais rien de lui. What is ancient ?» Ce qui est ancien, c'est l'église, « Felicitous place », heureux, hein, selon la terminologie, l'analyse que fait Marc. Et « new », c'est lui. Pareil dans Rebecca, elle ne connaît pas cet homme, et ne sait même pas qu'il était marié, veuf, etc., enfin, etc. Donc elle découvre leur passé. Et elle, c'est pareil. Elle est déjà fiancée à un ingénieur, Raoul, et elle l'épouse, que lui la prend comme un aigle tombe sur sa proie. Hein, et elle ne connaît rien de cet homme-là. Donc c'est le point commun des trois films-là. Après, sur les similitudes et tout, peut-être on va en parler parce que je vais commencer par passer les extraits. Mais il y a beaucoup de choses qui travaillent le film comme piste et comme motif. Il y a l'idée du double et de la duplication, donc ça vous en avez énormément et à tous les étages. Monte Carlo, j'en ai parlé pour la scène de etc. John Fontaine qui dans Rebecca est obsédé à l'idée de ressembler à Rebecca, de s'habiller par elle. C'est là où il y a la scène forte, très perverse de Mrs. Danvers, vous verrez dans le film, qui lui dit, pour la scène de bal costumé, de prendre pour modèle la robe de la mère Winter, sans savoir que Rebecca avait déjà fait ça à l'autre bal costumé, et donc tout d'un coup. Donc il y a l'idée de ressembler, de double, etc. Dans Rebecca, il y a plein d'occurrences sur la duplication. Il y a 2 cadavres de Rebecca, vous verrez comment et pourquoi, un vrai, un faux. Il y a 2 naufrages. Il y a un naufrage qui révèle un naufrage passé, hein, et qui fait que ça fait tout basculer la fin de l'histoire par rapport à l'idée d'accident, de meurtre, de suicide. Enfin, voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est aussi les structures narratives des trois films. Bon, là, c'est évident, parce que Hitchcock se référait explicitement à Rebecca. Et c'est une voix off de femme qui ouvre Rebecca et qui parle d'ailleurs de rêve, l'ouverture de Rebecca. Quand je rêve, je rêve que je reviens à Manderley. Et d'ailleurs, c'est une voix qui rêve, qui parle de rêve, et du coup, c'est une voix off, oculaire, sans corps. Donc, du coup, elle traverse les grilles, puisqu'elle n'a plus de corps, c'est en rêve, c'est très beau, donc c'est comme une caméra. Mais c'est toujours intéressant, les voix off sont toujours des points de vue oculaires, la voix, et elle évoque le château, le rêve. Vous avez vu dans Secret, pareil, le rêve, hein, le bateau d'Aphodils. Et chez Bunuel également, c'est la femme qui est narratrice, à partir du moment où il y a le basculement dans le temps. Et c'est elle qui revoit son ancien fiancé Raoul et qui lui raconte tous les malheurs qu'elle a eus avec Francisco. Donc c'est les femmes qui sont narratrices. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont victimes et elles sont en même temps narratrices. Donc ça, il y a beaucoup de choses à dire sur ces rimes, ces structures. Quoi d'autre dans les pistes? Il y en a beaucoup. Sur les motifs, là, il y a foison, c'est les portes. Portes ouvertes, portes fermées, portes à clé. Enfin, vous regardez, soyez maniaco-obsessionnel porte sur chaque film et vous verrez le rôle des portes dans le Bunuel et tout. J'en parlerai après quand vous aurez vu les extraits. Porte, l'escalier. Les escaliers sont là. Il y a l'escalier au cinéma. Il y a des articles d'ailleurs. Il y a une conférence de Damisch, la cinémathèque française, Hubert Damisch, historien de l'art, qui parlait d'escalier au cinéma chez Fools et en peinture. Il y a beaucoup d'ouvrages en peinture sur l'escalier et sa signification. Et les films que vous allez voir, les trois, sont chargés, si je puis dire, en escalier. Le moins chargé en escalier, peut-être, c'est Secret. Hein. C'est le fameux escalier où il y a les portraits encadrés de masques africains. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. On la voit deux fois monter, et regarder. Le plan, il veut descendre, ou c'est filmé en plongée. Mais l'escalier de Rebecca est très intéressant. C'est un escalier en Y, comme dans Elle, d'ailleurs. Moins tarabiscoté, mais pareil. Avec la chambre pour la nouvelle mariée. Et à droite, la chambre de Rebecca. Elle est, elle ouest. Et quand on est en bas, elle monte l'escalier, il y a un mouvement. Quand elle est en haut, elle attend. Quand il y a la robe, justement, qui imite celle du portrait, là, c'est l'humiliation. Donc c'est intéressant de voir. Et chez elle, dans elle, c'est encore le plus chargé. J'en parlerai de toutes les occurrences de l'escalier et du Y, hein, dans un héros qui fait, lui, des zigzags. Donc le Y, c'est ce qui précède le Z. Et donc on parle de XY, les chromosomes, hommes-femmes. Là-dessus, l'escalier de Bunuel est X, Y, Z, il y a la totale, si je puis dire. Hein? Ok, donc, oui, il y a d'autres aspects. Il y a la nécrophilie qu'on retrouve chez Bunuel, Viridiana, chez Hitchcock, Vertigo, et qu'on retrouve aussi un peu dans Rebecca, je trouve. La fascination pour la morte, et l'idée que la morte, on a vu lui ressembler, donc il y a l'idée de, chez Rebecca, Jeanne Fontaine, de vouloir être, de dupliquer la morte pour pouvoir être aimée de son mari. Sans quoi elle se leurre, okay, avant de changer. Mais cette idée du double, de la morte, pour le retrouver dans Vertigo, ou le retrouver dans Viridiana. Au début, la nièce qui doit présenter ses novices lui demande de prendre la robe de mariée, puisque sa femme est morte lors de sa nuit de noces, et il veut prolonger cet instant-là en lui demandant de jouer le rôle de sa femme décédée. Donc le rapport de la duplication par rapport à la mort et la nécrophilie, je dirais, travaille beaucoup Hitchcock, travaille beaucoup Bunuel. Juste pour terminer, mon petit tour d'horizon qui est un peu long, non? Un peu dans tous les sens. Ah oui, il est déjà... Ok. Sur la mise en scène et le décor, il y a un autre film qui dialogue, mais on ne peut pas tout faire dialoguer tous les films, mais c'est sur le théâtre. On parle souvent de scènes de crime, sur le théâtre d'un crime. Hein. Il y a cette idée de... En plus, souvent dans les films, il y a aussi des reconstitutions de meurtres. Il y a un film d'ailleurs qui passe ici, pour Nouredal, où à la fin, il y a une scène de « Rejoue-moi », ça « Play it again », hein, dans la reconstitution théâtrale de ce qui s'est passé au moment du meurtre. Donc, crime et mise en scène. L'autre film de Bunuel, c'est « La vie criminelle » d'Archibald de la Croust. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. J'en parlais brièvement. Mais je pense qu'il dialogue très bien aussi avec Secret sur l'idée de décor et de mise en scène. Parce que, on va en reparler avec les extraits, Marc, là, tout d'un coup, quand il entame le décor de la construction de la chambre qui n'est pas de Célia, qui n'est pas de Léonore, mais de Célia, c'est une intention de meurtre. Donc, commencer un décor, c'est mettre en scène la perspective d'un meurtre. Il sera son achèvement. Je parlerai d'une notion très importante entre terminer et achevé. Parce que vous avez vu la visite, elle dit « Ah, mais il ne l'a pas tué. C'est la chambre de Léonore, et puis c'est la preuve qu'il ne l'a pas tué, parce que c'est une copie. alors que les autres sont des pièces authentiques. Vous vous souvenez de cette distinction-là? Et comme elle regarde, elle dit non, ce n'est pas la vraie chambre, parce que la vraie chambre de l'honneur, c'est celle où je dors. C'est bien. Et donc, c'est la preuve qu'il ne l'a pas tué, que ce n'est pas un meurtrier, parce que c'est une fausse, c'est une copie. C'est-à-dire que les autres sont des pièces authentiques. Et elle dit, elle est presque à dire, oui, mais c'est la version que lui a donnée Caroline. Il ne l'aimait plus, donc elle s'est dépérie mortellement de ce non-amour, donc il ne l'a pas tué. Donc c'est sa culpabilité, avant de changer d'avis. Hein. Donc il y a l'idée, donc là, c'est avant de, je vais en parler, je vais avoir l'extrait de « The candle, it's my room, it's waiting ». J'adore la notion de « ça m'attend », c'est-à-dire « ça m'est destiné hein, ». Destiné. C'est sur le rapport, Lang travaille beaucoup la question de la place du personnage et du spectateur. Quand il y a la visite, il y a le guide, le metteur en scène, il y a des spectateurs, comme au cinéma, qui regardent un film. Hein, et puis ce qui manque, mais c'est le mort, qui est évoqué par l'absence, la chaise vide, les chats, etc. Donc on verra bien que dans les deux chambres, entre la chambre d'Eleanor où vit Célia, c'est sa place, et l'autre, qui pense que c'est Eleanor, mais qui est la sienne aussi, il y a une sorte de duplication, de transfert entre être spectateur et être acteur, c'est-à-dire personnage qui est destiné à tuer. Quand on voit un film, on dit, ben, il souhaite une fourmi, il m'attend, il m'est destiné. Quand vous voyez un film, vous dites, il vous est destiné en tant que spectateur, il est pour vous. Quand on réalise un film, il est fini, au sens fini, monté et tout, mais son achèvement, c'est le spectateur qui va achever le film, au sens lui destiné, il le reçoit, il le voit. Et il y a un moment que je trouve magnifique dans l'extrait qu'on va voir, où je parle avant de montrer les extraits, mais ça va être bien. C'est quand il est dans la chambre et qu'elle réalise que c'est sa chambre, elle ne veut pas y rester, parce qu'elle sait que si elle y reste, elle va y passer. Elle revient à la fin avec le... Voilà. Mais ça se passe bien. Et du coup, il y a un plan magnifique où elle sort à toute vitesse. On voit son reflet dans le miroir, elle est floue. Que si elle reste nette, elle sait qu'elle va être tuée. Elle, donc tout d'un coup, elle est là, non pas en tant que spectatrice, mais en tant que protagoniste d'un drame à venir qui est sa mort. Et si elle revient dans l'autre chambre, elle sera spectatrice de... Donc cette question de la place du spectateur et du personnage, elle est au cœur de la mise en scène de Chez Lang par rapport à l'idée de personnage metteur en scène. Bien. Bon, je crois que j'ai pas dit tout, mais j'ai balancé beaucoup de choses un peu dans tous les sens. On va commencer par les extraits. Hein. On va commencer par l'extrait de Rebecca. Rebecca, mais pareil, c'est ce que j'appelle la série, ce que je vais les montrer, les trois, la série, la visite à la chambre. Hein, d'accord. Donc c'est le moment dans le film, on va y aller. C'est le moment où le mari, comme dans le Secret, mais ça, Lang s'est jamais caché de s'être inspiré de Rebecca, et aussi de Dr. Edwards, par rapport à l'idée Stanley Cortez, ce que j'aime pas moins, mais la brume, le côté un peu... Grico, Fantastico, etc., très beau, mais avec la photo, etc. Mais ça, c'est un peu le côté syndrome, Dr. Edwards, Dali, etc., etc. Mais je pense que moi, j'aime plus m'intéresser à l'axe Rebecca, décor, chambre. On va passer donc l'extrait où le mari, Maxime de Winter, Laurence Olivier, est parti, et qu'elle visite la chambre de Rebecca, donc de la morte, où elle ne vit pas, elle ne dort pas, qui est presque une chambre interdite dans l'aile du bâtiment ou qui est à l'abandon. Voilà, donc on va passer ça. Il faut que je clique deux fois, m'a-t-on dit. Et il faut que je mette de l'audio pour que ça soit de l'anglish.
accomplish anything, madam. I didn't expect to see Mrs. Danvers. I noticed that the window wasn't closed and I came up to see if I could fasten it.
Why did you say that? I closed it before I left the room. You opened it yourself, didn't you? You've always wanted to see this room, haven't you, ma'am? Why did you never ask me to show it to you? I was ready to show it to you every day. It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen. Everything is kept just as Mrs. DeWitt liked it. Nothing has been altered since that last night. Come. I'll show you my dressing room. This is where I keep all her clothes. You would like to see them, wouldn't you?
L'écran est bien, c'est parfait. Merci pour les conditions techniques. Il faudrait parler des actrices. Parce que John Bennett, Lang a fait 4 films avec elle. Et, enfin, ça, il en parle, Jean-Luc Bourget, mais quand Renoir a fait Femme sur la plage, qui est aussi un autre film psychanalytique, il l'a fait avec John Bennett, tout comme Lang adorait Paulette Goddard, qu'il a prise dans Journal d'une femme de chambre qu'il a fait à Hollywood, par amour pour, je dirais, Chaplin. Et là, c'est un clin d'œil, je dirais pas un clin d'œil, un hommage à Fritz Lang, qui en plus a fait le remake de La chienne Scarlet Street avec John Bennett dans le rôle. Donc John Bennett, quatre films. John Fontaine, c'est Hitchcock. C'est celui-là, c'est Soupçon. Et Fritz Lang, dans un autre film sur la mise en scène, qui est peut-être le plus achevé, si je puis dire, c'est Beyond a Reasonable Doubt, l'inversable de la vérité. C'est John Fontaine qui joue le rôle. Donc c'est intéressant de voir des actrices dites Hitchcockiennes chez Lang, ou des actrices voilà, comme John Bennett. Donc ça, je parle de ça. Ben, là, les similitudes, il y a... Je ne sais pas si vous avez vu l'escalier au début de l'extrême, elle prend un escalier, elle va à droite, qui est l'aile. Elle habite dans une autre aile du manoir. Cette porte-là, cette fois-ci, n'est sans clé. Elle rentre comme ça. Comme dans Le Secret, il y a un double rideau. C'est-à-dire, quand Célia rentre, il y a d'abord un rideau qu'elle franchit avant de découvrir la chambre. Là aussi, il y a un rideau qu'elle franchit, blanc, avant de rentrer dans la chambre. Elle ouvre la fenêtre, qui donne le côté un peu fantomatique avec l'air du vent. Le rideau. Ce qui est important, c'est la table de toilette avec la photo de son mari qui semble regarder l'absente, la morte, mais qui regarde Célia, qui est, pas Célia, pardon, lapsus, John Fontaine, qui est un peu son double, qui prend sa place. C'est une scène que, là, on voit bien que on préfère, je pense que Mrs. Danvers, tout de noir vêtu, qui est un peu comme Miss Robley dans Secret de la porte, hein, passé, etc., elle est un peu la gardienne du musée et qui a une sorte d'amour passionnel pour sa maîtresse, Rebecca. Donc elle a gardé les traces intactes, inchangées. Et elle est un peu celle qui détient les clés symboliques de ce lieu-là. Et du coup, il y a la scène très forte où elle fait semblant de se brosser les cheveux, mais sans le faire pour rejouer ça. Il y a une scène de brosse à cheveux aussi dans Le Secret à la porte, mais pas les mêmes choses, les mêmes conditions. Mais c'est intéressant, les rimes déplacés, qui ne sont pas des rimes, qui reproduisent à l'identique les choses, et qui lui demandent presque de jouer ce rôle, mais qu'elle n'a pas envie de jouer, parce qu'elle est effrayée à cette perspective-là. On peut suspecter en lecture, je dirais, que Mrs. Danvers, comme une sorte d'amour passionnel, platonique, mais fort pour l'ancienne maîtresse Rebecca, parce que la scène explicite du manteau de fourrure qu'elle caresse sur son visage, qu'elle fait caresser ce visage-là. Et il y a presque un plan Hitchcockien, Langien, pardon, dans le film, que j'aime beaucoup, parce qu'on voit que toute l'obsession du R, mouchoir et tout, c'est elle qui les a fait. Et le plan magnifique, qui est presque un plan Langien, de main. Vous voyez ma main à travers la robe de nuit. Mais c'est plus que ma main au sens, on la voit parce que c'est transparent, mais c'est ma main derrière tout ce décor, garde à l'identique. Quand elle s'approche de la trousse, elle n'ose pas toucher à la brosse pour ne pas déplacer, puisque tout est resté intact comme une sorte d'arrêt sur image du décor après sa mort, dont elle est la gardienne. Et toute la fin qui lui fait peur, c'est ma main derrière tout ça, donc c'est la main derrière ce lieu où elle ne trouve pas place. Et l'autre lui parle d'histoire de fantômes, et de « est-ce que vous entendez des fantômes ?» enfin, etc., etc. C'est les dialogues, puisque vous les avez eus en anglais. Oui, c'est ça, je cite là parfois dans le couloir, on voit sa main dans tout cela, bon, c'est l'idée de « voyez ma main », mais ça, c'est l'idée de la main langienne, c'est-à-dire de la main qui possède des calculés sur les lieux. On n'accourait pas parti, parfois dans le couloir, je crois l'entendre derrière moi d'un petit pas léger, je la reconnaîtrai toujours, et pas seulement ici, mais dans toutes les pièces. Il me semble l'entendre. Les morts reviennent-ils pour observer les vivants, hein ? Ça, c'est donc traduit, mais hein, non, je n'en crois rien, etc. Parfois, je me demande si elle ne revient pas pour vous voir ensemble, c'est-à-dire elle et son mari, hein, donc l'idée d'observation et d'œil. Donc ça, c'est effectivement une visite à la chambre qui est, je trouve, intéressante, mais on voit bien que Lang a déplacé ça, parce que la visite de Célia à la chambre, si je puis dire, et le fait qu'il ait déplacé la chose, et la chambre d'Éléonore où elle dort, et puis la chambre dupliquée qui a une autre destinée, une autre fonction, fait que tout d'un coup, il reprend des éléments de Rebecca, et c'est bien de le voir pour voir comment il déplace. Je vais vous montrer un autre extrait de Rebecca, parce qu'il y a deux lieux, je l'ai dit. Il y a le lieu de Rebecca, qui est la propriété de Mrs. Danvers, hein, la gardienne des lieux. Et puis, il y a le cottage, en bord, vous verrez le film, au bord de la crique, la plage, qui était le lieu où elle, parce qu'ils avaient une sorte de pacte où elle voulait jouer l'épouse parfaite, vous verrez ça, il le dit, je crois, et elle recevait ses amis, dont George Sanders, qui est impeccable, mon film, comme toujours, dans une sorte de dandy abject, et blackmail, maître-chanteur. Donc ça, je vais vous montrer maintenant cette scène-ci. L'anglais n'a pas de secret pour vous, non? C'est bon, hein? No secret, hein? Beyond the...
supremely, wonderfully funny. I'd be the perfect mother, just as I've been the perfect wife. No one will ever know. You ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day, and to know that when you die, Mandalay will be his. She was face to face with me. One hand in her pocket, the other holding a cigarette. She was smiling. Well, Max, what are you going to do about it? Aren't you going to kill me? I suppose I went mad for a moment. I must have struck her. She stood staring at me. She looked almost triumphant. Then she started toward me again, smiling. Suddenly she stumbled and fell. When I looked down, ages afterwards it seemed, she was lying on the floor. She struck her head on a heavy piece of ship's tackle. I remember wondering why she was still smiling. And I realized she was dead.
But you didn't kill her. It was an accident.
Oh, well, believe me. I lost my head. I just knew I had to do something. Anything.
Voilà, accident. Après tout, c'est bien, si vous n'avez pas tout compris, comme ça, quand vous le verrez avec les sous-titres, ce sera plus clair. Dans ce qui m'intéressait ici, là, on voit bien le truc un peu tordu, c'est-à-dire que la rencontre amoureuse de ce couple se fait sur le lieu, lui, où il revient, là où sa précédente femme, Rebecca, lui a montré son vrai visage, et que, comme vous ne pouvez pas divorcer après 4 jours de mariage pour sauver la face, elle a joué le rôle de l'épouse parfaite. Donc c'est intéressant de voir que la scène de rencontre, ce film-là, vous verrez, est liée sur cette, non pas sur ce malentendu, mais sur cette chose-là. Ce qui m'intéressait ici, c'est juste, là, il y a tout ce qui... Là, c'est le contraire de l'autre, où c'est les objets, le fauteuil, la robe, la fourrure, la brosse. Elle, Mrs. Danvers, règne sur un monde de décors et d'accessoires. La fenêtre ouverte, fermée, l'autre qui dit « elle est ouverte, non, c'est pas vrai, j'avais fermé, elle l'a refermée ». Enfin bon, c'est elle qui a la maîtrise du décor, Mrs. Danvers. Par contre, là, on est dans le contraire, c'est sur la parole. J'aime bien le moment, je vais juste passer vite, mais c'est le moment où on évoque, lui évoque la scène de l'accident et de la mort de Rebecca. Et tout d'un coup, comme cette pièce aussi, vous verrez, est gardée à l'ancienne, sauf qu'elle n'est pas entretenue, il y a des toiles d'araignée, vous avez des bouquets de fleurs, sont pas en bon état. C'est important, les fleurs dans les films. Vous avez noté l'importance des fleurs, même Célia à la fin vient avec un bouquet de fleurs dans la chambre. Et le rôle ici, donc, c'est pour ça que j'aime bien les rimes déplacées de bouquet de fleurs, fleurs mortes, et là, halte à l'araignée. Et c'est le moment du cendrier qui reste à l'intact. Et tout d'un coup, la caméra filme presque Rebecca absente, comme une sorte d'homme ou de femme invisible. Et les mouvements de caméra l'accompagnent jusqu'à l'accident qui se passe auprès de la porte, la chute qu'on accompagne comme si son corps tombait. Donc j'aime bien l'idée de comment la caméra évoque par les mots une scène qu'on peut reconstituer, et comment la caméra filme cette femme invisible dans ce lieu, qui est très différent de son évocation par les accessoires, les objets dans Rebecca. Donc j'aime bien l'idée, parole, mouvement de caméra comme si on la suivait dans le plan, qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, etc., mais pas de lui. Et tout d'un coup, j'aime bien, c'est la caméra qui fait ici le travail, quand l'autre c'est le décor. Mais les deux se complètent dans le champ. Bien, on va passer maintenant au secret derrière la porte que vous avez vu. Secret de la porte, j'ai raconté déjà la voix off. Ce qui est important, c'est que ça commence par une scène de mariage en deux temps. On voit d'abord la scène de mariage, le rappel, la rencontre au Mexique, le voyage de noces, la hacienda, la fin du mariage, puis après à la maison. Cet épisode mexicain n'existait pas dans la nouvelle qui a été adaptée. Le film a été écrit par Isabelle Richard, je crois, qui est une ancienne maîtresse de Fritz Lang, et ça a été ajouté par rapport à la nouvelle, cette partie mexicaine, que je trouve très intéressante, parce qu'elle se passe au Mexique. Il y a aussi une église au début. D'ailleurs, quand il se marie, on reconnaît la Virgen de Guadalupe, qui est un peu l'emblème, je dirais, de ce que c'est que la religion au Mexique. Je voudrais juste, avant de passer les deux extraits, vous parler brièvement, que je ne vais pas montrer, mais vous l'avez en tête, c'est la scène de rencontre amoureuse, qui est une scène de coup de foudre. Bunel, coup de foudre, coup de poudre, foudre, coudre. Le jeu de mots bunelien est de Jacques Lacan, qui passait à ses étudiants au séminaire, elle, pour lui dire que c'était un cas authentique de paranoïa. Donc là, c'est plus un psychanalyste qui reconnaissait à Bunel des qualités de l'observation de la nature humaine pour dire la pathologie, comme Freud, dans ses cas de névrose, psychose, racontait des cas, des histoires. Lui, avec ce film-là, il trouvait que c'était il y avait tout ce qu'il fallait pour comprendre ce que c'est que la paranoïa. Et lui avait dit de elle, c'est l'histoire d'un homme qui passe du coup de foudre au fou de coudre. Je passerai la scène du coup de foudre et puis du fou de coudre, ne vous inquiétez pas. Puis il y a entre-temps un baiser qui est associé à un coup de poudre, une explosion aussi. Mais ça, c'est les jeux de mots. Alors, oui, revenons sur la scène de... Vous avez vu que Mrs. Danvers était en noir, elle était habillée en blanc. Dans le voyage de noces, dans le voyage au Mexique, par contre, avec sa petite, son amie, la fameuse scène, c'est une scène de théâtre de rue, si je puis dire, qui est de violence entre deux types de mecs, deux hommes, qui se disputent une femme. D'ailleurs, il y a un plan où on la voit, puis il dit, elle doit être fière d'être convoitée. Enfin, il y a ce plan-là sur cette femme-là. Vous vous souvenez que John Bennett, à ce moment-là, est vêtu de noir et de blanc. Elle a une robe blanche, mais elle a un chandail noir et des manches noires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce détail, mais il est important. Hein. Et surtout, il y a ce couteau, ce poignard, hein, qui n'est pas la flèche du Cupidon, mais qui associe tout d'un coup, comme le frisson, ce qu'elle évoque, le frisson du poignard, comme le frisson dans la nuque du regard qui est porté sur elle, qui est celui de Mark Lamphere. Donc tout d'un coup, on associe le coup de foudre de ce regard-là avec le crime, la violence, etc., etc. Donc ça, c'est très important, cette association-là, hein, du poignard qui vient la planter, qui ne lui est pas destiné, mais qui effleure sa main, et le regard qui effleure sa nuque. Chez Lang, il y a toujours l'œil et la main et l'œil. Chez Bunuel, il rajoute un truc hitchcockien qui est le fétichisme du pied. Il y a la main, l'œil et le pied. Lang est moins intéressé, si je puis dire, au pied. Quoique le pied beau m'abuse, c'est autre chose. Bien, passons. Ce qui est intéressant, c'est que le coup de foudre se fait sur une scène qui est presque aussi un théâtre. Comme le couple qui s'affronte, les deux hommes qui se bagarrent, c'est presque une scène de théâtre, dont elle est Célia la spectatrice. On est d'accord. Elle regarde, elle voit ces deux hommes se battre pour une femme. Elle est spectatrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se voit, elle est spectatrice regardant le combat de rue, et elle est vue en tant que spectatrice regardant ce spectacle par Mark Lamphere. Donc il y a un dispositif où celui qui est le dernier dans le voir et le mettre en scène est à la mise en scène. Là. Donc Mark voit, elle, voyant, etc. Donc celui qui a le dernier mot dans la chaîne du voir est celui qui a la maîtrise de tout ça. Et c'est intéressant que la première fois où il y a la scène dit du coup de foudre lié sur des regards fait que lui la voit voir ce spectacle-là de rue, de combat, lié à la mort, au désir, et que lui a la maîtrise, il la voit déjà spectatrice de quelque chose, mais il la voit déjà sur une scène, et tout l'objet de Marx, c'est de faire que Célia spectatrice devienne protagoniste, au sens programmé à être tuée en tant que personnage, et non pas comme spectatrice d'un possible meurtre. Donc déjà, dans la scène de coup de foudre, vous avez la totale. Okay, je vais passer maintenant... Je vais prendre un peu d'eau, excusez-moi. Quelle heure il est? Je passe tous les extraits quand même. Ah, ok. Mais c'est riche tout ça, hein. On pourrait rester une heure sur chaque séquence. Hein. J'aime bien Analyse de film. Moi, je prends le micro. Non, parce que quand j'ai fait une thèse sur Vampire, c'était une thèse sur la première séquence de Vampire. Donc vous voyez, quand on prend son temps, il y a plein de choses à dire. Passons. Donc je vais vous montrer juste une scène de... qui m'intéresse, parce qu'on y accorde peu d'importance, mais je trouve qu'elle est importante dans le film, c'est le malentendu linguistique sur le terme de « felicitas », hein, qui est très important. Je crois que dans la copie que j'ai vue, moi, c'est traduit par « une chambre fortunée ». Je ne sais pas si vous aviez le même sous-titre. Mais c'est important, ce terme-là. Donc je vais passer cette séquence où ils discutent de ça tous les deux. Parce qu'il y aura aussi, quand ils s'attendaient à la visite des chambres dans sa maison, mais ce n'est pas des happy rooms, tout ça, parce que c'est des meurtres. Et puis, il revient sur le terme de felicitas. Donc, il y a un malentendu linguistique, déjà. Donc, on va voir ce premier extrait, très bref, juste sur le malentendu dans la dénomination des choses.
Mais why I put out this magazine.
I can't build houses according to my thesis. My main thesis is that the way a place is built determines what happens. Church in Austin. I know. The main wall. Line sea. And there's a room in Tartar's Grove near Williamsburg, known as the Refusal Room because of Jinx's love affairs. Good old refused George Washington. Later, Jefferson proposed and was turned down cold in the same room. Seven rooms caused violence, even murder.
Come here, darling. There's some, done enough damage.
I talk too much.
Right now, I'm such a brutal mess.
Señora!
Voilà. Donc c'est une scène qui est toute simple, mais sur laquelle j'ai beaucoup à dire. Encore une fois, j'ai parlé au début du décor, qui n'est pas décoratif, mais qui a presque une fonction naturaliste, alors que là, c'est une sorte de conditionnement. Une pièce noire, si vous y restez comme ça pendant 10 ans, peut-être, ou dans une grotte, ça va peut-être vous influer sur votre comportement. Donc il y a cette idée que le décor n'est pas ornemental, il conditionne. Donc le terme de felicitas, tel que qui l'évoque, en anglais, felicitas, ça veut dire well chosen or suitable to the circumstances. Donc bien choisi et qui va, fonctionne, mais avec les circonstances. Donc, là, lui est à la fois une collection de chambres de felicitas, alors qu'elle, plus tard, elle dira happy. Hein, par rapport à l'idée de bonheur ou de félicité, enfin, je ne sais pas comment c'est voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, il y a cette idée qu'on va retrouver chez Buñuel, qui est l'idée du décor comme conditionnement, comme c'est ce qu'il dit dans ses exemples. L'église dans laquelle il a choisi, il a mis du temps à choisir, est une felicitas église, structure harmonieuse propice au bonheur, 400 ans de joie dans l'église, enfin, c'est ce qu'il dit, qu'il a mis du temps à choisir, et que tout d'un coup, il y a cette idée-là du décor qui conditionne, hein, qui influe sur le comportement. Nous, on verra que lui, il a une autre idée, qui est celle de construire un décor en vue, c'est-à-dire la perspective. La perspective, au sens perspective, et le point de fuite, le point d'achèvement, c'est le meurtre. Mais il y a l'idée du décor, comme un film. D'abord le décor, ensuite les acteurs. D'accord ? Ok. Donc ça, je voulais juste passer cet extrait-là pour bien dire le terme felicitas, sa signification et sa théorie, si je puis dire, du décor. Ce qui m'intéresse ici, par rapport, je ne vais pas parler du naturalisme, mais là, ça va être trop à part le temps, il faudrait rajouter Renoir dans la boucle, si je puis dire, hein, parce que Lang a adapté Renoir, la chienne Scarlet Street, hein. Renoir a fait le genre de femme de chambre, Buñuel a fait le remake, enfin, il faudrait mettre Renoir dans la boucle, si je puis dire, par rapport à cette notion de crime aussi, dans la chienne, enfin, etc., bête humaine, etc., etc., avec Lang, mais bon, on va pas faire ça. Là, je vais passer maintenant à la scène centrale sur laquelle je vais quand même beaucoup parler, c'est la scène de la visite à la chambre de Célia dans Rebecca, dans Le Secret de la Porte, je m'y perds. Le temps paraît s'arrêter. Le point un peu plus faible, c'est pas grave. Les mains, la clé. Escalier qu'on voit là. Oh, j'ai pas le micro. Thank you. Il y a eu le plan quand elle court en flou pour ne pas rester dans l'image, que rester dans l'image, c'est pas bon. La scène, architecturalement, dans le film, c'est la scène centrale. Enfin, moi, c'est la scène la plus forte, dramatiquement, pour plusieurs raisons. On a vu avant qu'il parle des Felicitas Room, qu'il est collectionneur et puis en même temps critique, parce qu'il a sa revue. Hein. Il y a la visite des chambres, hein, avec du public et lui comme guide. Lui est l'auteur des décors reconstitués avec des pièces identiques, mais il n'est pas l'auteur des crimes qu'on voit dans les chambres précédentes. On est d'accord. Ce n'est pas lui qui a tué. Mais il reconstitue à l'identique, donc il n'est pas l'auteur. Donc, pourquoi ? Première question. Après, je passe, elle le dit, hein, ton cerveau, je n'arrive pas à pénétrer ton cerveau, donc si je rentre dans la chambre, je comprendrai ton cerveau. J'en ai parlé, on s'articule ça. On peut s'amuser avec le chiffre 7, si vous voulez. Le chiffre premier, le jour où Dieu se repose, mais là, c'est le diable qui travaille. Enfin bon, vous pouvez vous amuser avec ça. Hein, ok. Il y a la porte et la poignée. Il y en a déjà de Rebecca, vous verrez celle de elle, où c'est au contraire, c'est l'homme qui ferme la clé et c'est la femme qui trouve porte close. Non, elle, c'est encore autre chose. Bien, passons. Même principe, il y a un rideau, il y a un interrupteur, elle écarte le rideau et elle voit la chambre. Dans Rebecca aussi, il y a ce rideau blanc où on voit Mrs. Danvers, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand elle voit la chambre, c'est la chambre d'Eléonore. Pourquoi ? Parce que toutes les chambres qu'elle a vues avant dans sa collection, ce sont des gens qui sont déjà morts. Donc elle part du principe que la chambre suivante célèbre ou rend hommage en termes de musée, si je puis dire, quelqu'un de mort, Eleanor. Et va même, vous l'avez entendu, faire une interprétation presque d'analyse du fait que ce n'est pas une pièce authentique, mais une copie. Et il y voit la preuve qu'il n'a pas tué Eleanor, mais qu'il ne l'aimait pas, donc elle est morte, je dirais, de ne pas avoir été aimée, mais comme une sorte de morlande dont il n'est pas l'auteur ou le coupable. Ça, c'est un débat chez Lang, etc. Donc ça, c'est très intéressant. L'importance ici, il faut revenir sur deux choses. Voilà. La bougie, je voulais vous montrer la bougie, et puis le temps. Le temps, c'est le temps qu'elle attend avec l'horloge pour y aller quand il n'y a personne. Et c'est le rappel du temps, l'horloge, qui fait qu'elle regarde le chandelier, la bougie. Là, c'est fort, parce que tout d'un coup, c'est là, c'est par la marque du temps, parce que qu'elle comprend que c'est sa chambre que lui veut recopier. Un détail que vous avez vu, hein, qui est la bougie. La bougie sert à est une marque, fait un double en termes d'image, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de bougie, qu'on fait fondre, on en fait une empreinte et on fait un double de clé. Hein. Donc la bougie sert à faire un double en termes d'image. Et tout d'un coup, la bougie, quand elle s'aperçoit qu'il y a la scène qu'on voit dans la chambre quand elle va faire la clé avec l'empreinte et la bougie, quand lui, avec la douche, il y a le chien, qui est bien d'ailleurs dans le film de Lang, le chien. Vous verrez qu'il y a un chien très important dans Rebecca aussi, qui est très important. Vous pouvez comparer les chiens dans les deux films, si vous voulez. Mais non, mais parce que le chien était attaché à Rebecca, et tout d'un coup, la dernière scène de Rebecca, on voit John Fontaine avec Mrs. Danvers, elle a le chien sur ses genoux, donc le chien a adopté la nouvelle épouse comme Rebecca, alors qu'avant, on le voit devant la porte de Rebecca, on le voit devant la porte du cottage, etc. etc. Bien, passons. Et quand on lui revient pour dire « Tu étais venu dans ma chambre », c'est là où elle ment, elle aussi, parce qu'elle y était, elle ne le dit pas, mais ça, sur mensonge et vérité, il y a plein de choses aussi dans les films qui sont autres pistes de comparaison, différence. Et là, on le voit, lui, observer le fait qu'il y a une dissymétrie avec la chambre. Donc c'est là où on voit que on peut comprendre un indice de pourquoi il est attentif à ça, c'est parce qu'il reconstitue cette chambre. Donc tout d'un coup, quand Célia voit la dissymétrie, c'est qu'elle voit le temps de cette chambre. Le temps de cette chambre, c'est-à-dire que ce n'est pas la chambre d'avant au temps de normes, c'est la sienne, et la bougie devient une empreinte du temps, après avoir été une empreinte en termes de traces et de double. Donc elle a cette double fonction, la bougie, double image et double marque du temps. Le temps, parce qu'effectivement, cette rupture-là, elle, Celia, succède à Léonore. Les chambres se succèdent. Et il y a une logique du temps dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts. Et ensuite, il construit des chambres à l'identique avec les pièces, etc. Là, la différence, qui est une différence de temps, justement, de temps, hein, c'est pas seulement la duplication d'image, c'est que tout d'un coup, il commence une chambre et elle sera terminée ou achevée quand elle sera tuée. Et la construction de la chambre avec la bougie désigne le fait qu'il va construire cette chambre dans la perspective de la tuer, elle. C'est ce qu'elle découvre. It's my room, it's waiting for me. Elle m'attend ou elle m'est destinée. Hein. Elle est pour moi, elle sera achevée au sens précis, quand elle sera achevée, tuée. Et c'est là où justement, c'est intéressant de voir dans le film, il veut la tuer dans la chambre dupliquée, non pas dans la chambre où elle dort, qui est celle d'Éléonore. Donc c'est intéressant. Et c'est là où elle fuit, parce qu'elle comprend que sa place en tant que spectatrice, rester spectatrice de cette chambre en cours, si je puis dire, qui n'est pas achevée au sens où l'entend Marc, fait que tout d'un coup, elle doit s'en... Si elle y reste, elle devient protagoniste et personnage. Quoi. Donc ça, c'est, je trouve ça vraiment fort, cette chose-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, pour une fois, si je puis dire, par rapport au président de chambre, celui qui construit la pièce est l'auteur du meurtre. Enfin, la pièce au sens le décor. Alors qu'auparavant, il reconstituait des scènes de mort qui se passaient dans des temps anciens, enfin, au temps des Huguenots, enfin, etc., etc. Donc, est différent. Donc là, tout d'un coup, cette bascule effroyable, si je puis dire, du Félicitus, d'Harmonie, c'est que tout d'un coup, il la voit, elle, dans le tableau, hein, comme perspective de meurtre, mais qui est pensée à travers un décor dont elle sera l'achèvement. Voilà. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ce que c'est important, dans, soit je parlais de la scène de rencontre avec le poignard, il la voit spectatrice d'une scène, et là aussi, elle est spectatrice de quelque chose où elle est destinée non pas à la voir comme spectatrice, parce qu'il y a toute la visite, elle est importante, la visite des pièces. Parce que qu'est-ce qui manque dans la visite des pièces? C'est les morts. Hein. Mais il y a le décor, les visiteurs, le guide. Là, tout d'un coup, si elle reste là, elle sait qu'elle sera prise aux pièces, si je puis dire, d'être la victime de. Hein. Il faudra qu'elle s'en échappe. Donc ça, je trouve que la scène là-dessus est extrêmement, extrêmement forte sur l'idée du destin et de ça vous est destiné ou c'est pour vous. Et, ça, et l'idée, encore une fois, qu'on pourrait développer sur l'idée de terminer et achever. Terminer le décor et commencer autre chose, le tournage, le comédien, et puis aussi le fait d'être acteur, spectateur par rapport à cette scène du voir qui est langue importante. Enfin, j'en parle dans l'article que j'avais écrit, mais je suggère ça, enfin, c'est une chose extrêmement forte dans le film, sur l'idée justement de se retrouver, enfin de cette idée du terminé et de l'inachevé, de ce qui va l'achever, si je puis dire, par rapport à ça, sur la place. Bien, je regarde le temps, justement. Quelle heure il est? 11h, ça va. Je prends un peu d'eau, excusez-moi. Après, vous pouvez vous amuser si vous voulez faire de la psychanalyse, mais après, c'est sur l'idée de la bougie, castration, couper un petit bout, un petit morceau de pénis qu'on enveloppe dans un pansement, etc. La clé symbolique pour, voilà, etc. Vous pouvez vous amuser avec ça aussi, hein, si vous voulez. Mais je préfère l'idée de bougie empreinte, copie, image, et bougie comme marqueur du temps. Et quand elle voit la bougie, elle s'aperçoit que c'est ça date la reconstitution. Et ça la date au moment où elle a modifié ce décor. Donc ce décor lui est destiné. Donc le destin, c'est le temps. Donc ça, j'en passe des meilleurs, parce que Douchy a beaucoup parlé de l'importance des horloges, du temps, de la fatalité. Et puis de ça vous est destiné, ça vous attend, ça vous vise. Et le fait que tout d'un coup, elle est touchée comme le poignard, quoi. C'est elle qui va être la cible, si je puis dire, par rapport à ça. Donc l'idée de target, de cible, est très importante chez Lang par rapport à la place du spectateur, la place du metteur en scène et la place de l'acteur. Et toutes ces interférences, justement, dans la mise en scène, le personnage metteur en scène, la main, voir, c'est avoir, posséder, et être dans cette scène-là, elle s'en échappe tout de suite, on la voit en flou, parce que si elle reste nette, c'est elle qui va être supprimée, et du coup, il y aura une autre visite, avec elle en moins, les visiteurs, lui, le guide, etc. Donc c'est cette chaîne-là qu'elle veut interrompre. Voilà. Bien, elle, maintenant, elle, on va aller chez Buñuel, hein. Elle, je vais commencer par une scène d'église. Il y a l'église, je voulais montrer les extraits de l'église, mais on ne peut pas tout montrer. Mais les deux extraits d'église sont magnifiques dans le secret. Hein, parce que c'est en deux temps. Et il y a beaucoup de contre-plongées sur le décor, avec un panoramique. Il y a ça dans la Hacienda, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ça finit sur Marc de dos. What this is new. Après, on a elle en robe de mariée qui rentre, sa suffocation, sa voix, et puis qui le voit de dos. Quand il y a la suite, le raccord dans le temps, qui est une sorte d'arche, la construction temporelle est très intéressante, tout comme dans elle aussi. Hein. On la revoit de nouveau. Et là, il y a un triangle qui est très intéressant, parce qu'il y a le prêtre, et puis il y a Marc en diacre. Là. Donc, voilà. Donc ça, ce triangle-là m'intéresse, parce qu'on va le retrouver chez Buñuel, précisément, dans une scène d'église. Donc la scène que vous allez voir, parce que c'est aussi une scène de rencontre et de coup de foudre, hein. Mais sauf que vous allez voir comment, c'est un coup de foudre en triangle et en déplacement. Hein. Comme pour ça que le plan, revoyez le film, elle, le prêtre, c'est-à-dire celui qui va bénir et donc au terme de loi religieuse va célébrer le mariage, et lui qui est en pointe de triangle, hein, toujours mais c'est intéressant cette figure géométrique dans la scène de mariage, la deuxième partie de Secret. Je vous invite à la regarder. Donc le temps passe, n'est-ce pas, hein. C'est une idée bêtement palanguienne du tout, mais naturelle. Donc je vais passer l'ouverture de elle, la scène dans l'église, qui est magnifique. Ça commence par un triangle, hein. C'est Francisco, il est un peu « touch in the head », lui aussi, hein, comme le dit très bien John Bennett. C'est intéressant parce que je vais passer aussi les deux scènes d'église, de mariage et puis celle-ci. Même si dans le film de Lang, c'est le sermon de mariage après la scène de rencontre avec le bagarre au couteau dont je vous ai parlé. Ici, c'est une scène forte parce que c'est une scène de coup de foudre qui vient lors d'une cérémonie. Bon, ça c'est autre chose, cérémonial. On commence d'ailleurs par un triangle de bougies éteintes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, quand on voit... D'ailleurs, la moustache de Francisco, elle est un peu comme ça, d'ailleurs, non ? Un peu en accent circonflexe, hein, un peu. Si on veut s'amuser, hein, on peut, c'est pas obligé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais c'est... Ici, là... Il y a le triangle aussi, parce que... Là, il y a une sorte de coup de foudre. Vous avez vu comment il arrive ? Il arrive par les pieds. C'est pas les pieds et les déplacements des pieds. Donc la scène est très bien faite, parce qu'il y a un cérémonial. Donc chez Buñuel, la question du cérémonial religieux, du cérémonial et de la cérémonie. Puis, les scènes de repas chez Buñuel, comme la scène, c'est à la fois... Il y a le côté renoirien de la bouffe, mais il y a le côté cérémonial du repas, du théâtre des cérémonies. Ici, c'est très bien fait, parce qu'il y a celui qui voit, qui participe à la cérémonie, Francisco, c'est celui qui tient le bro pour verser l'eau dans la bassine. C'est la cérémonie du jeudi saint, du lavement des pieds, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Et la foule qui essaye de voir, mais qui n'est pas au premier rang. Nous, on est... Voilà. Donc on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pieds embrassés. Hein, le prêtre, Padre Velasco, embrasse le premier pied. Et on voit l'air du jeune homme qui a l'air un peu... Enfin, j'aime bien sa tête. Bon, qu'est-ce qu'il fout, enfin, etc. Enfin, on peut s'amuser avec ça. Et c'est la deuxième fois où on voit Francisco... Il regarde directement le baiser plus marqué du Padre Velasco sur le deuxième pied, mais et qui tout d'un coup tourne la tête comme une sorte de déplacement du baiser au pied qu'il ne veut plus voir ou qui voilà. Il va chercher d'autres pieds par association. J'aime beaucoup le travelling des pieds, la diagonale des pieds nus qui est très belle, ouais. Puis lui, il va créer sa diagonale à lui. Pieds d'homme, il y a les deux pieds de femme avec les petites boucles, mais qui sont bien alignés, donc ça a l'air un peu strict. Puis après, il voit ses deux beaux pieds en escarpin décalés légèrement, puis là, il revient, et tout d'un coup, il y a le regard. Il a des visages de manière, enfin, comme un aigle qui tombe sur sa proie. Elle baisse les yeux, se voit vue, la regarde. Donc là, il y a l'idée de choisir sa proie qui passe donc par le pied. Et par le visage. La scène d'après, je ne l'ai pas montrée, elle est importante, toujours sur l'idée des mains. Vous avez vu les mains, le tiroir, les mains, les yeux, voix, chez Lang, c'est œil et main. Encore une fois, chez Hitchcock, Buñuel, c'est aussi les pieds, le fétichisme des pieds. Hein. Mais la scène d'après, c'est le bénitier, où selon la tradition, quand on bénit, on prend l'eau de bénitier, on la donne à quelqu'un, qui ainsi de suite. Et Francisco retrouve Gloria au bénitier, il veut toucher sa main par l'intermédiaire de la cérémonie, hein. Qui sert de couverture à son désir, si je puis dire. Mais la mère vient et interfère, comme on dit dans le secret, et c'est du coup l'idée possédée de la main. Mais la scène est forte parce que dans le cas de paranoïa dont parlait Lacan, il y a toute cette idée de l'homosexualité refoulée, hein, et Francisco est un bon client pour ça, par rapport au baiser du prêtre avec le garçon, et comment il déplace ça sur un autre objet qui est les pieds de femme par rapport aux pieds d'homme. Et à la fin du film, vous verrez le film, quand Gloria, qu'il a réussi à arracher à son fiancé Raoul, quitte la maison pour des raisons que vous verrez, il la cherche dans le bureau de Raoul, escalier, dans le bureau, dans la maison de Raoul, escalier, et puis il retourne à l'église où il avait l'habitude de la revoir pour essayer de lui mettre la main dessus. Et à la fin, comme il hallucine, les gens se moquent de lui, etc., etc., il se jette sur le père Velasco et il l'étrangle. Et le père Velasco dit « Es un amigo, es loco ». Enfin, c'est un ami, il est fou, enfin, il finit, vous verrez, je montrerai ça. Mais il ne se trompe pas en étranglant le père Velasco, qui est un peu la cause de tous ces maux par rapport au baiser au pied. Donc ça, c'est une scène de coup de foudre qui est très belle, qui se passe dans et sur le motif du triangle, lui qui est au sommet de la pyramide, voir les pieds, donc cette figure première qui ouvre la séquence, etc. À propos des bougies, j'ai oublié de parler des bougies de secret, si vous voulez faire une ligne bougie, si vous voulez, c'est Noël bientôt. Il y a la fameuse fontaine aux vœux, c'est avec des bougies à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. C'est là où il dit vœux, bonheur. Il y a plein de petites bougies allumées dans le truc. Et quand on voit le rôle des bougies après, c'est intéressant. Hein, okay. Sur le suivi bougie, si je puis dire. Il y a un suivi fleur aussi dans les films que vous pouvez faire. Bien. Quelle heure il est ? Ok. Bon. Buñuel, donc j'ai montré cette scène-là, qui est sur les scènes de rencontre. Hein. Comment justement tous les films sont liés à des coups de foudre. On épouse un inconnu qui va vous faire la misère, donc, terreur, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui dialogue entre les films. Ce que j'aimais bien ici, c'est le Mexique, et puis l'église aussi du secret, qu'on revoit ici autrement. Maintenant, je vais passer un extrait de la réception dans la maison de Francisco, où on parle en écho au secret sur le rôle du décor de cette maison, hein, et son influence, ou une sorte d'atavisme du décor de père en fils, avec un prêtre qui est un peu... Enfin, vous verrez. Et puis aussi la théorie de Francisco lors du dîner sur le coup de foudre, justement. Donc, je vais passer cette scène de elle.
Martini dulce, señora.
No hay nada de breva, que tráeme un refresquito.
Enseguida, padre.
Escalier en Y. Ouais.
Ese tipo de amor se está formando desde la infancia. Un hombre pasa que su instinto le dice que es la única. En realidad, en esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones, sus deseos de la vida anterior de ese hombre.
Bueno, hijo, pero el amor no siempre es recíproco. ¿Y si ella no te quisiera?
Tendría que creer.
Vaya, no te creía tan romántico. ¿Qué opina usted, padre Velasco?
Pues yo opino sobre el amor. Este pavo está muy bueno.
Donc le curé est très benoulien, il a que la dinde, lui, pour le plaisir de la vie. Hein. Donc la scène est... Cette fameuse maison, je l'ai passée, vous verrez le film, il y a effectivement les chambres, tout ce qui se passe en bas, le domestique, le bureau, et cet escalier est en Y, d'ailleurs, comme Rebecca, mais sauf que le Y est plus marqué. La première fois, vous verrez le film, la première fois, on voit le... Ce qui est intéressant, c'est vous verrez l'extérieur de la maison, c'est des murs, une forteresse comme un château moyenâgeux, chambre des tortures, et il y a un hiatus entre l'extérieur de la maison et son intérieur, très art déco, rococo, presque Dali, Montremolle, enfin, etc. La scène, la première chose, c'est le commentaire du prêtre, Padre Velasco, qui a tout faux dans l'interprétation des choses. Hein. Le père est un peu original, c'est le contraire de Francisco, qui est lui sensé, équilibré. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand le prêtre dit « sensé, équilibré », il y a un plan de coupe où on voit Gloria s'éloigner de l'axe de l'escalier pour aller à la chaise. Mais c'est le moment où on parle de ça. Donc, dans la scène, lui, il est très languien au sens basique du terme, metteur en scène, c'est-à-dire qu'il l'a vu à l'église, il l'a retrouvé à l'église, il sait qu'elle a un fiancé, Raoul, il la suit et il va convaincre le fiancé de l'inviter à venir dîner chez elle avec sa fiancée et sa mère. Il dit, moi, je m'occuperai de la maman et toi, tu resteras avec ta fiancée. C'est là où elle voit la manigance et la mise en scène qu'il accepte. Donc, ce qui est intéressant, c'est le père Velasco parle de cette chambre-là et de cette salon, plutôt, et du fait qu'il a été conçu par le père qui était à l'exposition universelle de 1900, Buñuel est né en 1900, et le père de Buñuel avait aussi une maison comme ça, il raconte Buñuel. Hein, donc, c'est Buñuel qui parle. Hein. Mon père, puisque le père de Buñuel a vécu à Cuba, il est rentré après avec la guerre, etc. Mon père, qui était un indiano, comme le dit le peintre Gironella, s'est fait construire une maison style 1900, un peu art nouveau. J'aime cette époque. Dali et moi étions fascinés par l'art nouveau et l'architecture de Gaudi. Voilà. Bon, j'en passe. Mais c'est intéressant ce qu'ils aiment bien ici, c'est l'idée du décor comme atavique, père-fils. Le Padre Velasco, qui a tout faux dans sa lecture, équilibré sensé, il n'est pas si équilibré que ça. Et comment le décor influence. Sur les occurrences, vous verrez le film de l'escalier. La première fois où on voit cet escalier en Y, c'est précisément parce que la domestique, la bonne, s'est fait lutiner dans la chambre de Francisco par l'employé de maison, et elle rajuste son chemisier. Et c'est vraiment l'intersection du Y, donc c'est tout de suite lié à la sexualité. Hein, parce que les chambres, c'est le haut, et l'espace social, en réception, c'est en bas. Donc ça, il y a un moment quand la mère veut absolument voir sa fille, qui lui dit que ça va pas bien dans leur couple, le domestique empêche la mère de monter l'escalier, donc c'est une barrière. Donc ça, il y a une frontière entre le rôle de l'escalier, puis après, il y a aussi l'espace de l'escalier. Au moment du baiser, dans le parc, tout d'un coup, avant qu'il y ait le baiser plus l'explosion, le coup de poudre qui est ellipse, il y a un panoramique très étrange où on revoit les invités, où il y a l'escalier en Y, il y a un panoramique très lent, où il y a le piano à droite qui est lié à l'association du plaisir, de la lubricité. C'est l'espace droite où d'ailleurs il rejoint Clélia sur la chaise, et l'espace gauche où il y a la mère de Gloria. Et le curé qui joue aux cartes, etc. Donc, pour bien distinguer les lieux. Donc ça, je trouve que c'est le rôle de l'escalier dans le film est très important. Et je vais vous montrer deux autres scènes. La scène du coup de foudre, elle est importante, mais là, parce que c'est des scènes de coup de foudre, hein, surtout dans Le Secret, avec l'histoire du couteau, etc. Lui, il associe ça clairement à l'orage et l'éclair. Donc vous allez voir l'éclair, la foudre qui déchire et le zigzag. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à Buñuel et le surréalisme et l'amour fou. C'est un film sur l'amour fou, mais c'est sur l'amour fou au sens pathologique, dangereux, criminel, et l'amour fou n'est pas du tout ni poétique ni lyrique. C'est des gens qui sont dingues et qui sont très dangereux, et ils montrent ça. Donc ça, c'est un autre petit clin d'œil. Mais ce qui m'intéresse dans la scène du dialogue par rapport à sa proie, on l'obligerait, enfin bon, tout le côté, etc., c'est l'idée de l'éclair, de la foudre, de ce qui déchire. Le temps passe, mais il me reste... Ouais, ok, bon, on va... Je vais montrer là un extrait bref de quand il va pas bien, et c'est lié à l'escalier. Ah non, c'est pas ça, c'est pas grave. Attends, c'est celui-là, là. Attends, non, peut-être c'est le 3, je me suis trompé, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, voilà, c'est très bref. Mais tout ça pour l'importance de l'escalier. Il va pas bien, ça se voit. Là, il ferme sa porte à clé. Une scène après un bal où lui demande de sois gentil avec un invité parce que ça va arranger mes affaires avec son procès, etc. Et comme il trouve qu'elle en fait trop, elle a sa petite robe de chambre, lui, elle va aller à sa chambre et lui ferme à clé. Donc il y a plein de moments d'histoire des clés et des serrures. Enfin, vous verrez, vous pourrez recenser. Et il y en a. Je vais passer sans plus tarder parce que le temps passe. La scène de la visite à la chambre aussi. Ce sera la troisième. Hein. J'ai montré. Vous avez vu celle de Rebecca, Mrs. Danvers. Celle de Celia, it's the candle, it's my room, it's waiting for me. Et maintenant, la visite à la chambre de Francisco la nuit. Il y a une horloge, mais avec un humour bedelien, c'est minuit l'heure du crime. On y va.
Come on, come on, come on.
différence, c'est que effectivement, les autres, c'est lié à une femme morte, absente, etc. Donc ça change. Là, c'est au présent, si je puis dire. La scène est... Enfin, il y a un côté grotesque de lui qui dit « raté de peu, just missed, enfin, dommage enfin, ». Mais le côté, voilà, affalé après sur le lit comme la vache dans l'âge d'or. Ce qu'il y a, c'est le... J'aime bien aussi quand elle crie et lui a peur comme un gamin, enfin, etc. Vous verrez la... Bon, le côté Buñuel est différent de langue. C'est-à-dire que pourquoi il amène une aiguille, un fil, une lame de rasoir. Donc Buñuel dit, ah, ben, je ne sais pas si vous avez une interprétation, mais c'est vous qui achevez le film en termes de... C'est vous qui voyez, vous voulez l'interpréter de ce qu'il a envie de faire avec ça. J'aime bien le moment du plan où on nous passe la corde au cou avec la caméra, puis aussi la main, avec, etc. Donc ça, c'est une scène de... C'est la scène de la visite à la chambre qu'il faut comparer avec les deux autres, et je la trouve intéressante dans ces différences. Sur la clé et la serrure, il y a des portes ouvertes et des portes fermées dans elle. Par contre, il y a un usage de la porte qui est spécifique à Buñuel et à elle. Parce que lorsqu'il est en voyage de noces, ils sont aussi voyage de noces, il y a des voyages de noces et tout, c'est à Guanajuato, où je suis allé d'ailleurs, et les marches et tout, enfin j'ai revu tous les lieux où Buñuel a tourné. Et il y a une scène où justement lui pense qu'il y a un homme qui sourit, qui les suit, et il se trouve qu'il est dans la chambre d'hôtel juste à côté d'eux. Et tout d'un coup, il sait que il est parano, quoi. Il pense que cet homme veut séduire sa femme. Et du coup, par le trou de serrure, il prend une aiguille et du fil, hein, et il met l'aiguille dans le chat, le trou de serrure, pour lui crever l'œil. Donc là, c'est un usage de la serrure, si je puis dire, par rapport aux portes fermées et tout, buñuelien par rapport à l'œil, qui est totalement différent de l'usage... main, mais pour voir avec l'œil, etc. Donc ça, c'est, je voulais juste signaler ça. La scène de l'escalier, mais c'est le zigzag par rapport à l'importance du zigzag de l'éclair et du coup de foudre. Je ne sais pas si j'ai le temps de passer le dernier extrait. Si, peut-être, oui, oui. J'aurais pas le temps de faire de vraies conclusions, mais c'est un peu. Mais c'est la guérison, pardon. Non, pardon. Je prends pas le bon truc, excusez-moi. Ah non? C'est celui qu'on vient de voir, ça. Je crois que c'est pas bien. Oui, il est pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer, mais vous le verrez. Bon. Je crois que je vais pouvoir conclure. Non, l'autre extrait que j'avais prévu, c'est la fin de Elle, sur la supposée guérison et puis le fait qu'il est dans un couvent. Parmi les hommes, après la scène de l'église de Padre Velasco, et on lui dit il va mieux, il va beaucoup mieux. Tous les prêtres se trompent sur le diagnostic, hein, ils ne sont pas très futés. Et on le voit faire un zigzag, marcher en zigzag. Donc ça veut dire qu'il ne va pas si bien que ça, qu'il y a un tunnel noir en perspective par rapport à ça. Donc ça, c'est, je dirais, le pessimisme lucide buñuelien quant à la guérison. Voilà, donc j'ai un peu parlé de. Enfin, c'est. Qui est, je trouve intéressant par rapport à c'est les rimes qui sont fortes, bien sûr, plus entre Rebecca et Secret. Ce qui est intéressant, la perspective, c'est le décor. C'est le décor comme conditionnement et le décor comme agent qui n'est plus quelque chose qui décore et qui orne, qui a des conséquences et qui dit quelque chose aussi de l'état mental des personnages. Et aussi chez Lang, l'idée même de... Commencer un film, c'est construire un décor, puis ensuite, il y a les acteurs qui viennent, le film est terminé et achevé, et le spectateur le voit. Et je pense que derrière Le Secret de la Porte et tout le sujet, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la mettre en scène, construire un décor, à quelle fin, à quelle perspective, par rapport à celui qui va jouer et par celui qui va voir ce qui a été mis en scène dans la relation entre un décor, etc. Donc il y a chez Lang cette idée aussi de la perfection, et du ratage, hein, par rapport à l'horreur de la dissymétrie. Vous verrez dans Elle, quand il ne va pas bien, il est sur le lit, demande à son domestique de rectifier le tableau, parce qu'il n'est pas bien agencé. L'ouverture de Chien, de Fantôme de la Liberté, il y a aussi une cheminée, où tout est bien agencé, comme je dirais la cheminée du Sequel Beyond the Door, et la fille de Jean-Claude Brialy a une petite mygale, il veut la mettre sur la cheminée, puis il ne sait pas où la mettre. Et Brialy a cette phrase géniale, il dit « j'en ai marre d'asymétrie », et il pose la mygale sur la cheminée. Mais cette cheminée du Fantôme de la Liberté, c'est un peu la cheminée du Sequel Beyond the Door, par rapport à la perfection, la symétrie, le ratage, la méprise, Felicitas, Happy, et le mépris. Hein. Mais il y a deux causes que ce qui cloche et ce qui rate. Donc là-dessus, il y a toute une réflexion sur le pouvoir de la mise en scène et sa fonction et sa destinée par rapport au spectateur, au personnage, d'une scène à l'autre et par rapport au décor. Et là-dessus, le film de Lang est tout à fait passionnant. Merci à vous de votre patience. Et voilà. Merci.